Quand on se retrouve au milieu d'une forêt super dense, avec juste le bruit de la rivière, on a vite fait de croire qu'on observe une nature totalement sauvage et intacte.
Ouais, c'est clair, mais c'est souvent une illusion en fait.
Exactement. Et le tout nouveau parc national de la vallée de la Semois, qui a été créé fin 2022 en Wallonie, ben c'est vraiment l'exemple parfait de ça. Aujourd'hui, notre mission pour ce deep dive, c'est d'extraire vraiment l'essence des documents historiques et officiels de ce parc.
Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre comment ce territoire, qui fait quand même près de 29 000 hectares, sert de laboratoire grandeur nature.
Un endroit où la biodiversité brute et le folklore se mélangent, c'est ça, hein?
C'est ça. On y fusionne l'histoire et un tourisme très ciblé sans pour autant saturer l'espace.
Voilà. Et du coup, pour commencer, il faut absolument qu'on parle de la base, donc la géologie.
Ah, la géologie ardennaise, oui. On parle d'un socle qui a genre 500 millions d'années. Quand ce socle s'est soulevé, la rivière Semois s'est retrouvée littéralement piégée, en fait.
Piégée, c'est-à-dire qu'elle pouvait plus du tout s'étaler sur les côtés?
Voilà, donc elle a été obligée de creuser verticalement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec ces fameux méandres ultra encaissés, comme le site super connu du tombeau de géant.
J'aime beaucoup l'analogie de la voiture de course pour expliquer cette dynamique. Faut imaginer une voiture lancée à pleine vitesse, mais qui est coincée dans une ornière de pierre.
Ouais, je vois bien l'image.
Bah, avec la force centrifuge dans chaque virage, la voiture va frotter à l'extérieur de la courbe. Et la rivière fait pareil. Elle vient gratter la roche sans arrêt et ça creuse des falaises toujours plus abruptes.
Et l'avantage direct de ce relief, jugé quasiment infranchissable, c'est qu'il a agi comme un énorme bouclier contre l'agriculture intensive.
Ah oui, ça les a protégés des machines, quoi.
Totalement. C'est grâce à ces pentes vertigineuses que 86% du parc a pu rester à l'état forestier. Ça a créé une vraie forteresse naturelle pour 110 espèces d'oiseaux.
Dont la fameuse cigogne noire, qui est super discrète.
C'est ça, et aussi une bonne vingtaine d'espèces de chauves-souris.
Attends, en parlant des chauves-souris, il y a un truc qui m'a vraiment interpellé en lisant le plan d'action du parc. Ils mettent une énergie folle à restaurer ce qu'ils appellent une trame noire.
Ah oui, la trame noire, c'est crucial.
Mais pourquoi dépenser autant d'efforts pour protéger l'obscurité au lieu de, je sais pas, simplement planter des arbres pour étendre l'habitat de la forêt?
Bah, en fait, planter des arbres, ça suffit pas. Les chauves-souris sont des espèces lucifuges, donc physiquement, elles fuient la lumière.
D'accord.
Pour elles, un simple lampadaire sur une petite route forestière, ça agit vraiment comme un mur de briques invisible. Donc, sans cette fameuse trame noire, qui est un réseau de zones sans aucune pollution lumineuse, leurs populations sont coupées.
Ah ouais, ça bloque carrément leur cycle de chasse et de reproduction, du coup.
Exactement. C'est une question de survie.
L'ironie de ce territoire, c'est que la géologie qui a protégé ces animaux a aussi dicté une économie humaine très singulière. On parlait de la force de l'eau dans les virages tout à l'heure.
Oui, l'érosion à l'extérieur des courbes.
Voilà, mais sur les pentes douces, à l'intérieur de ces courbes, le courant ralentit et dépose des alluvions. Et ces dépôts de terres hyper riches ont déclenché une vraie ruée économique au XIXe siècle.
Ah oui, très bas. Ce terreau a permis de cultiver une variété unique, très faible en nicotine.
C'est quand même fascinant de se dire qu'aujourd'hui, on est dans un sanctuaire écologique protégé, mais qui est parsemé d'immenses anciens séchoirs à tabac classés monuments historiques.
C'est le paradoxe de ce parc. Et d'ailleurs, qui dit production lucrative près d'une frontière dit évidemment contrebande.
Ah, les fameux travailleurs de la nuit.
Ces contrebandiers utilisaient le relief forestier pour faire passer illégalement du tabac et du café vers la France.
C'est ça. Et leur méthode montre à quel point ils s'étaient adaptés au terrain. Ils utilisaient carrément des chiens.
Des chiens!
Mais comment ils faisaient pour passer la douane?
Il les dressait spécifiquement pour mémoriser les chemins clandestins à travers les ravins. Avec des petits ballots sur le dos, ils étaient lâchés seuls la nuit.
C'est fou. C'est vrai qu'un chien, c'est beaucoup plus rapide et silencieux qu'un humain pour éviter les patrouilles.
Exactement. Et tu vois, toute cette histoire d'exploitation du terrain, ça nous amène directement au masterplan 2026 du parc.
Oui, parce que l'approche de conservation moderne, c'est pas d'effacer l'humain pour revenir à un passé qui n'a jamais existé. L'objectif, c'est d'utiliser notre ingénierie pour protéger l'espace, genre avec ces nouveaux observatoires cachés.
C'est tout le contraire d'une mise sous cloche, en fait. En construisant un observatoire en bois, on canalise discrètement les randonneurs.
Pour éviter qu'ils piétinent n'importe où et réduire le stress des animaux, c'est ça?
Au plein dans le mille, on concentre la présence humaine. Et c'est la même logique pour le tourisme sur l'eau.
Au lieu d'interdire les kayaks, il y a des nouvelles chartes qui limitent les périodes de mise à l'eau.
Voilà, on définit des zones de débarquement super strictes pour empêcher physiquement les pagaies de détruire les frayeurs.
Les fameuses zones où les poissons pondent dans les graviers de la rivière.
C'est ça. Ils vont même jusqu'à adapter la sylviculture en plantant des arbres plus résistants pour anticiper le changement climatique.
Donc ça prouve vraiment qu'une gestion moderne, c'est une cohabitation hyperactive et planifiée entre l'homme et l'écosystème.
Totalement. On harmonise les deux.
Et ça soulève une réflexion vertigineuse pour la suite. Si certaines de nos espèces rares dépendent aujourd'hui de l'obscurité d'anciennes mines d'ardoise ou de l'ombre des séchoirs à tabac...
C'est vrai que la nature s'est bien habituée.
Ben oui. Du coup, est-ce que la nature sauvage existe encore réellement ou n'est-elle finalement qu'une immense co-création perpétuelle avec l'industrie humaine? Est-ce qu'on devra un jour construire délibérément de fausses ruines juste pour maintenir cet équilibre? Ça donne à réfléchir.